L'Iran a dénoncé le premier ministre israélien pour sa rhétorique comique. Téhéran est favorable au relancement de l'accord nucléaire. Au Karabakh, les Arméniens de la région doivent déposer les armes. C'était les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. L'Iran a dénoncé le premier ministre israélien pour sa rhétorique lors d'un discours à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. La mission iranienne auprès de l'ONU a qualifié le discours de Benjamin Netanyahou de spectacle comique. Dans son communiqué, la mission iranienne a déclaré que l'Organisation des Nations unies est toujours au service d'Israël pour répandre la désinformation et formuler les allégations sans fondement contre l'Iran. Le communiqué ajoute que le régime sioniste cherche à détourner l'attention de ses crimes et de sa politique d'apartheid contre les Palestiniens. Selon le texte, le premier ministre israélien a tenté de présenter le programme nucléaire iranien comme une menace pour la paix mondiale. Et ce, alors que le régime sioniste possède tout type d'armes de destruction massive et constitue le principal obstacle à une Asie occidentale exempte d'armes nucléaires. Vendredi, Benjamin Netanyahou a réitéré ses allégations contre les activités nucléaires civiles de l'Iran lors de son discours à l'Organisation des Nations unies. Il a déclaré que l'Iran devait faire face à une menace nucléaire crédible pour l'empêcher d'acquérir des armes nucléaires. Son bureau a ensuite corrigé son discours, affirmant que Netanyahou avait préalablement préparé son texte qui appelait, cité à formuler, une menace militaire crédible contre le programme nucléaire iranien. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que l'accord sur le nucléaire de 2015, connu sous le nom de Plan global d'action conjoint, pourrait être relancé si les États-Unis abandonnaient leur double standard. Hossein Amir Abdollahian a exhorté Washington à exprimer sa volonté de raviver le pacte et par conséquent de lever les sanctions anti-iraniennes. En juillet 2015, l'accord sur le nucléaire iranien, dit plan d'action conjoint, a été signé entre l'Iran, la Chine, la Russie, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Cet accord mondialement salué devait lever toutes les sanctions contre l'Iran, mais l'accord a été unilatéralement abandonné par l'ancien président américain Donald Trump en 2018. Ce désengagement a eu pour effet le rétablissement des sanctions contre Téhéran, et ce, alors que la République islamique d'Iran a toujours respecté ses engagements dans le cadre de l'accord. Téhéran a critiqué le rapporteur spécial de l'Organisation des Nations unies sur les droits de l'homme en Iran, Javid Rahman, pour ses liens avec le groupe terroriste anti-iranien Mojahedine Khalq. Kazem Gharibabadi, secrétaire du Haut Conseil iranien pour les droits de l'homme, a soulevé la question dans une lettre adressée au Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations unies. Il a accusé Rahman de soutenir l'OMK, qui a fait couler le sang des milliers d'Iraniens. Il a déclaré que les remarques de Rahman lors d'une session parlementaire britannique en juillet illustrent bien son lien et son soutien au groupe terroriste, ajoutant que la position de Rahman montrait également que sa nomination était simplement basée sur des motivations politiques et n'avait rien à voir avec les droits de l'homme. Gharibabadi a également critiqué ce qu'il a appelé la prise de position partiale du rapporteur, déplorant qu'il n'ait jamais soutenu les victimes iraniennes du terrorisme ou des sanctions occidentales illégales. Dans la région du Caucase du Sud, au Haut-Karabakh, les Arméniens de souche sont invités à déposer les armes en vertu d'un accord conclu avec la République d'Azerbaïdjan à la suite de son opération militaire rapide. Moscou a confirmé la reddition des Arméniens armés avec l'aide des soldats de maintien de la paix russes. L'opération militaire a déjà été lancée mardi, ouvrant la voie à la prise de contrôle total du Haut-Karabakh par Bakou. La région est internationalement reconnue comme faisant partie du territoire de la République d'Azerbaïdjan, mais elle est de facto sous contrôle arménien depuis le début des années 1990. L'offensive éclair de la République d'Azerbaïdjan a suscité des inquiétudes quant à la sécurité de près de 120 000 Arméniens locaux vivant dans cette région montagneuse contestée. Les groupes armés ont déclaré être engagés dans des pourparlers avec Bakou sous les auspices russes pour organiser le processus de retrait et le retour des civils déplacés par les combats. Plus de 30 Palestiniens ont été blessés lors des attaques des forces israéliennes contre des manifestants dans la bande de Gaza assiégée. Les Palestiniens se sont rassemblés vendredi 22 septembre près de la barrière séparant Gaza des territoires occupés en 1948. L'armée israélienne a déclaré que ses forces ont mené des attaques aériennes sur la bande de Gaza. Les manifestants ont également exprimé leur solidarité avec les Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, alors que les actes de violence commis par les forces israéliennes et les colons sionistes contre les Palestiniens sont multipliés. Les forces israéliennes ont utilisé des balles réelles et des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Ces derniers ont replié en lançant des ballons incendiaires vers les colonies israéliennes proches de Gaza, provoquant des incendies. Les forces israéliennes ont ensuite mené des attaques aériennes et d'artillerie contre les positions de la résistance dans l'est de Gaza. Au moins un Palestinien a été blessé. L'armée israélienne a déclaré qu'un drone avait touché deux postes militaires appartenant au mouvement de résistance palestinien Hamas qui gouverne la bande de Gaza. La radio Aqsa, affiliée au Hamas, a rapporté que plusieurs personnes avaient été blessées lors de ces frappes israéliennes. Et enfin, les États-Unis auraient décidé de fournir à Kiev des missiles d'attaque à longue portée après deux mois de spéculation. Les médias américains ont rapporté que le président Joe Biden avait informé le président ukrainien Volodymyr Zelensky de cette décision. Suite à la visite de Zelensky à Washington, la Maison-Blanche a annoncé un nouveau programme d'aide militaire d'un montant de 325 millions de dollars à Kiev et incluant 4 Abrams. Cependant, la Chambre des députés n'a divulgué aucune décision concernant des missiles à longue portée. On sait toujours que le président ukrainien Zelensky est actuellement en visite officielle au Canada, Canada qui a également promis environ 500 millions de dollars dans le cadre d'un nouveau programme d'aide. L'aide canadienne comprendra 50 nouveaux véhicules ainsi qu'une formation pour les pilotes d'avions de combat F-16. La Russie a averti à plusieurs reprises que l'afflux d'armes occidentales en Ukraine prolongerait la guerre et aggraverait les souffrances de sa population. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a évoqué le vendredi 22 septembre la rencontre entre le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian et son homologue égyptien Sameh Shoukry, en marge de la 78e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à New York. Elle a qualifié de très bonne et positive. En réponse aux journalistes de l'agence IRNA à New York, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré que cette réunion marquait une nouvelle évolution positive dans les relations entre la République islamique d'Iran et l'Égypte, étant donné la politique régionale adoptée par le gouvernement du président iranien Ebrahim Raisi. Au cours de la rencontre, des questions d'intérêt commun ont été abordées. Les parties, tout en passant en revue le présent et l'avenir de leurs relations, ont ouvert un nouvel horizon dans les relations irano-égyptiennes, a fait savoir le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani. Le mois dernier, le président du Conseil égyptien des Affaires étrangères, Mohammad al-Orabi, a déclaré lors d'une interview que des concertations étaient en cours entre le Caire et Téhéran, mais qu'elles ne devraient pas nécessairement être rendues publiques. Les interactions diplomatiques entre l'Égypte et la République islamique d'Iran n'ont pas été rompues, mais que des facteurs déterminants, uniques par essence, devraient être pris en compte lorsqu'il s'agit de rétablir les liens, a déclaré al-Orabi. L'Égypte a rompu ses relations diplomatiques avec la République islamique d'Iran en 1980, après avoir accueilli le dernier Shah déchu de la dynastie Pahlavi et reconnu le régime d'apartheid israélien. Par ailleurs, l'Iran et Djibouti décident de reprendre leurs relations diplomatiques. Par ailleurs, les ministres iraniens et djiboutiens des Affaires étrangères ont convenu lors d'une réunion de rétablir les relations diplomatiques entre les deux pays conformément aux intérêts et aux idéaux des deux nations. Les deux hauts diplomates qui se sont rencontrés jeudi 21 septembre en marge de la 78e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies sont parvenus à un accord visant à établir les relations amicales entre Téhéran et Djibouti, ancrées dans le respect mutuel de la souveraineté, de l'égalité, du bénéfice mutuel et de la coexistence pacifique. Les deux parties ont également décidé de renforcer la coopération dans divers domaines, notamment l'investissement, le commerce, la science et l'innovation technologique. Les relations entre la République islamique d'Iran et Djibouti ont connu une très bonne tendance dans le passé. Il existe différents domaines de coopération bilatérale, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian. Il a souligné que la République islamique d'Iran se félicitait du développement des relations avec les pays musulmans et frères et qu'il est intéressé par la normalisation des relations avec Djibouti. Nous considérons Djibouti comme un pays ami et fraternel. La République islamique d'Iran attache de l'importance au développement des relations avec Djibouti en tant que pays musulman important de la Corne de l'Afrique, a-t-il souligné. Nous pouvons établir des relations solides et renforcer la coopération dans tous les domaines, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdullahian.